avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre commence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, quelle sécurité pour les pays d'Afrique de l'Ouest? Fin de campagne au Niger et nous serons également à Diffa où le commerce du poivron a repris. Mopti a lancé de grands travaux contre l'insalubrité. Enfin, les États-Unis souhaitent que plus d'étudiants d'Afrique subsaharienne viennent se former dans les universités américaines. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. L'attaque djihadiste contre la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam remet sur le tapis la question sécuritaire pour les pays ouest-africains. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec le docteur Bakary Sambé, fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique, au sein du Tombouctou Institute, African Center for Peace Studies au Sénégal.
Premièrement, la question de la porosité des frontières maliennes, que je définis comme étant un ventre mou qui risque de poser des problèmes de stabilité à tous les pays qui lui sont voisins. La deuxième chose, il traite les défaillances en termes d'approche régionale et interrégionale pour ce qui est de l'extrémisme violent qui, à mon sens, ne peut être vaincu par un seul État. La troisième chose, c'est que nos États sont dans une forme d'impréparation par rapport à la transnationalité des acteurs qui, depuis des années, est en train de challenger le principe même de souveraineté des États. Du moment que le problème n'est pas résolu au Mali, on a vu son extension récemment au Burkina Faso, d'abord avec les événements qui sont passés à la gendarmerie de Houssi, avant qu'on analyse aux attentats du Splendide, on a vu aussi aujourd'hui, même pas une semaine après qu'on ait aperçu et repoussé les éléments djihadistes en provenance de la Côte d'Ivoire qui ont été repoussés à la frontière malienne et qui s'attaquaient aussi à une gendarmerie. Donc la question du djihadisme est devenue préoccupante pour tous nos pays et qu'il faudrait s'y atteler de manière collective mais aussi de manière régionale et voire interrégionale.
Justement, j'allais vous demander, après le Burkina Faso, le Mali et maintenant la Côte d'Ivoire, un autre pays de la sous-région qui pourrait être visé par les djihadistes est votre pays, le Sénégal, d'après des analystes. Partagez-vous cet avis?
Les attentats de Ouagadougou ont signé la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal est resté depuis très longtemps cet îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. Pour qu'il le demeure, justement, il faudrait des mesures idoines et une coopération avec les pays de la région, mais aussi avec les partenaires internationaux.
Mais justement, pourquoi le djihadisme se répand-il à ce point en Afrique de l'Ouest? Et sera-t-il possible d'y mettre un terme?
Je crois que l'Afrique est en train de devenir le nouveau terreau de ces mouvements djihadistes dans un environnement où il y a une forte concurrence entre Daesh et les autres mouvements comme ACMI, Al-Murabitoun, etc., qui aussi veulent prouver leur existence malgré la prédominance de Daesh.
Le docteur Bakary Sambé, directeur du Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies de Dakar. Nous consacrons deux reportages au Niger cette semaine. D'abord pour évoquer la campagne présidentielle. À quelques jours du second tour de la présidentielle du 20 mars, quelle est l'ambiance sur le terrain? Notre envoyé spécial Bagassi Koura a fait le tour des QG de campagne.
La seule ambiance de campagne que nous avons pu apercevoir jusqu'à présent ici à Niamey, c'est cette musique au siège de campagne de Mahamadou Issoufou, le président sortant à l'entrée du bâtiment. Sous un soleil de plomb, un vendeur de gadgets discute avec un client. Quelques militants s'affairent dans les allées. Pas grand monde, mais à en croire le directeur de campagne de la coalition au pouvoir, Amadou Oumoudou, tout se déroule bien.
Pour nous, la campagne, c'est les équipes de terrain. Et sur toute l'étendue du territoire, nous avons nos équipes qui sont en train de tourner. C'est vrai que les gens regardent la ville de Niamey en pensant que c'est la ville de Niamey qui est le centre pour la campagne. Il y a moins d'engouement dans la ville de Niamey qu'au premier tour. Tout à fait normal parce qu'il y a moins d'adversité.
Aucune animation particulière non plus dans le QG de l'opposition réunie au sein de la COPA 2016. Elle a appelé au boycott du scrutin. Mais son candidat, Ama Amadou, toujours en prison, n'a pas retiré sa candidature.
Nous serons chez nous. On a demandé à tous nos militants de ne pas aller voter. Ça ne nous concerne pas, c'est un non-événement.
Halilou Tahirou est membre du bureau politique du Modem Fa-Loumana, le parti de Ama Amadou.
On ne votera pas dimanche parce que le vote de dimanche, ça sera un fiasco. C'est en ce moment-là que le boulevard sera. Parce que déjà, des gens qui ont volé au premier tour, à grande échelle, au deuxième tour, eh bien, c'est le dernier tour. Ils vont encore mettre le paquet.
L'opposition dénonce la fraude, le non-respect des règles du jeu démocratique par les institutions de l'État, mais surtout l'arrestation de son champion, Ama Amadou, qui, à ses yeux, est un prisonnier politique. Une thèse que réfute Amadou Ouhoumoudou, directeur de campagne du président sortant.
Mais son statut n'a rien de politique. Et donc, ce n'est pas un débat politique dans lequel il faut engager le gouvernement ou engager le PNDS.
Vous savez très bien que ça, ce n'est pas un discours auquel l'écrasante majorité des Nigériens croient.
Moussa Tchangari est leader de la société civile.
Les Nigériens n'ont pas le sentiment d'être dans un pays où la justice est réellement indépendante. Ça, vraiment, on peut le dire pour amuser un peu la galerie, parce que c'est politiquement correct peut-être de le dire.
Le Niger se prépare sans tambour à aller aux urnes dimanche prochain pour une élection qui fait déjà beaucoup de bruit. Bagassi Koura, Niamey pour VOA Afrique.
Nous sommes à Difa, dans le sud-est du pays, pour notre second reportage consacré au Niger. Difa est située près du lac Tchad, où de nombreux attentats de Boko Haram ont eu lieu. Sur place, l'économie repart doucement avec la réautorisation du commerce du poivron. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial, Nicolas Pinot.
Au marché au poivron de Difa, le va-et-vient des camions est permanent. Cultivateurs, transporteurs, ils s'activent. L'or rouge du manga est de retour. Depuis 5 mois, son commerce a été autorisé à nouveau dans la région de Difa. Wanibala Madjare est le directeur des cultivateurs de poivron.
Ça va, le commerce a repris il y a 5 mois. On vend bien aux Nigériens et aussi aux Nigériens.
Depuis plus d'un an, toute la filière du poivron était à l'arrêt. Les autorités locales en avaient interdit la vente car elles soupçonnaient Boko Haram de tirer des revenus importants de ce commerce. Aujourd'hui, il y aurait plus de traçabilité et les populations locales ont déjà fait beaucoup de sacrifices dans la lutte contre le terrorisme, comme l'explique à VOA Afrique le gouverneur de Difa, le général Abdou Kaza.
Ces populations-là sont responsables et sont capables de mener leur commerce de poivron sans qu'il y ait des risques du genre concret avec les rapports avec Boko Haram. La filière, on ne peut pas dire qu'elle est formellement ou hermétiquement maîtrisée, mais nous pensons qu'il n'y a pas grand problème avec cette filière.
Le sac de 50 kg de poivron s'échange en ce moment à 24 000 francs CFA, soit 12 000 naira nigérians. Même dans les camps de déplacés, les affaires ont repris. Madou Kaloumi était cultivateur dans le village d'Assaga au Nigeria. Il a fui Boko Haram avec sa femme et ses 3 enfants.
On vend sur Difa, mais aussi ici dans le camp si on trouve des acheteurs. Ici, c'est difficile. On manque de vivres, d'eau et il y a des problèmes de santé.
D'autres interdictions demeurent en revanche, notamment le transport à moto, une des armes privilégiées des djihadistes de Boko Haram. Pour le Nébé, où le poisson c'est aussi compliqué, Ariel Assouri est le secrétaire général du syndicat des commerçants de Difa.
Le poisson, bon, ce n'est pas bon parce que c'est interdit ici. On n'a pas autorisé de faire le passage du poisson au Nigeria. Ici, surtout à Difa, nous sommes tout près du lac Tchad. Mais malheureusement, vous savez, ces gens-là, ces enfants-là viennent par tous les moyens, ils profitent. Donc c'est pourquoi on a interdit le poisson. Même le poisson, Inch'Allah, dans quelques jours, on va aller voir le gouverneur pour voir vraiment si c'est possible de reprendre les activités du poisson.
Si le commerce du poivron a repris, les échanges entre le Niger et le Nigeria de ce côté-ci de la frontière sont en revanche perturbés par un conflit entre les transporteurs des deux pays, ce qui paralyse le trafic routier. Nicolas Pinault, DIFA, VOA Afrique.
Direction le Mali à présent, où ont démarré les travaux d'aménagement du Pagoué d'Anewal. C'est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a donné le premier coup de lame. Cette infrastructure permettra de résoudre le problème d'insalubrité et surtout de rendre la commune plus attractive. D'un coût de près de 800 millions de francs CFA, ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre du PACUM, entendez le projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Reportage de notre correspondant à Mopti, Mamoudou Bokoum.
Avec ce coup de lame du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat du Mali, le Pagoué d'Anewal, une mare naturelle dans la ville de Mopti, va connaître un nouveau visage. Oumar Papabatili, maire de la commune urbaine de Mopti.
Sa réalisation permettra de résoudre les problèmes d'insalubrité tout au long de la berge, d'où l'impact positif sur la santé des riverains, de contribuer à rendre la commune plus attractive des visiteurs et tout simplement de préserver l'environnement.
D'un coût total de 791 millions de francs CFA, l'infrastructure constitue un espoir pour les 128 000 habitants de la commune. Dramane Dambélé est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Que des chemins parcourus pour qu'aujourd'hui soit qu'il aurait cru à un lancement des travaux d'aménagement et de protection des berges, d'un bassin naturel de restauration des eaux de ruissellement de la mythique mare de Mopti, Pagoué d'Anewal. Quel magnifique espoir!
Espoir pour la population mopticienne, puisque tous ont marqué leur adhésion au projet.
Je suis vraiment très content pour la réalisation de cet aménagement de Pagoué d'Anewal. Toute la population est satisfaite.
Ça va dégager les eaux usées qui seront de l'autre côté. Le Pagoué va toujours demeurer. Mais d'autre côté, positif aussi de ce projet, c'est de pouvoir sécuriser ce Pagoué. En tant que citoyen, moi je suis vraiment pour et j'invite aussi aux autres citoyens d'accompagner ce projet.
Ces travaux d'aménagement de Pagoué d'Anewal, ça va renforcer le problème de santé de la commune urbaine de Mopti. Surtout ces eaux stagnantes-là qui ne font que de la mauvaise odeur. Vraiment, nous sommes d'accord avec cette réalisation. Et si on peut faire plus?
Le ministre Dambélé a saisi l'occasion pour inaugurer la rue 50 de Sévaré, une autre réalisation dans le cadre du PACOM, projet d'appui aux communes rurales du Mali sur financement de la Banque mondiale. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Rubrique éducation pour finir cette émission. Les États-Unis souhaitent que plus d'étudiants d'Afrique subsaharienne viennent se former dans les universités américaines. Le secrétaire adjoint du commerce, chargé de l'industrie et de l'analyse, Marcus Jadot, a effectué la semaine dernière une visite en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Jointe par Nathalie Barge, la ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ramata Bakayokoli, estime qu'il faut également accroître l'échange universitaire entre l'Afrique et les États-Unis.
Je souhaiterais renforcer la coopération avec les États-Unis et que nos étudiants, qu'il y ait plus d'étudiants qu'il y a aux États-Unis, mais je souhaiterais aussi qu'il y ait la mobilité aussi vers la Côte d'Ivoire, parce que je pense que les étudiants américains ont des choses à apprendre aussi de la Côte d'Ivoire, de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Autant nos étudiants ont besoin d'aller dans des grandes écoles, une des grandes universités aux États-Unis, nous aussi, nous avons un système d'enseignement où des étudiants des États-Unis peuvent venir pour prendre des cours dans certains domaines.
Qu'est-ce que vous entreprenez éventuellement comme nouveau programme d'échange entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire?
Par exemple, vous avez là, tout ce qui est dans le domaine de la santé, faire connaître toutes nos pathologies. Bien, ils auront une meilleure prise en charge des Africains au niveau des pathologies tropicales. La santé, mais même d'autres domaines. Parce que nous avons aussi des chercheurs qui sont, par exemple, dans les biopesticides. Nous sommes en train de développer des savoir-faire. Je pense que nous pouvons partager. Nous sommes en train de développer des phytomédicaments. D'ailleurs, même nous avons déjà des collaborations avec les universités américaines. Il y a des programmes qui sont communs que nous logeons en Côte d'Ivoire.
Pourriez-vous en citer quelques-uns éventuellement?
Nous avons par exemple le programme qu'on appelle le programme WAVE, qui est un programme contre le virus du manioc, qui est un programme régional financé en grande partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, entre autres. Et puis nous avons beaucoup d'étudiants, bien sûr, les Fulbright, quand ils reviennent, ils développent des savoir-faire qui nous permettent aussi d'avancer. Nous sommes en train de le faire avec d'autres universités, même les universités canadiennes et tout. Donc je pense que ce serait intéressant et que nous puissions même monter des formations conjointes, partagées. Nous aimerions vraiment renforcer les partenariats avec les États-Unis. Je vous avais tantôt parlé du domaine médical, par exemple au niveau de la recherche génétique. Et j'ai même été visiter le laboratoire du professeur Watson, celui qui a découvert la double hélice de l'ADN il n'y a pas très longtemps. Et nous avons une coopération pour mettre un laboratoire de génétique en Côte d'Ivoire avec les États-Unis et un laboratoire de substances naturelles. Donc, pour vous dire que nous aimerions vraiment renforcer cette collaboration, que des chercheurs américains aussi viennent et que nous travaillons ensemble et que des chercheurs ivoiriens aillent prendre le savoir-faire là-bas et venir nous aider à développer la Côte d'Ivoire et l'Afrique.
Ramata Bakayoko Li, ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Lionel Gaïma. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel, sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le morceau La Paix du Malien Mahamoudou Cissé. Bonne soirée et bonne nuit à tous.